l'importance d'une communication efficace. Vous êtes orthophoniste, notamment, et vous allez pouvoir nous préciser cela avec cette discipline.
Donc, bonjour à tous. Merci pour cette invitation qui va me permettre d'échanger avec vous autour de la communication auprès des personnes qui sont porteuses de maladies neurodégénératives, notamment comme dans la maladie d'Alzheimer. Alors du coup, on va commencer par vous montrer les résultats d'un petit sondage qui a questionné un petit peu les aidants dans le cadre de leur prise en charge. Est-ce qu'ils ont été en contact avec les professionnels suivants? Et on s'aperçoit que le neurologue est un interlocuteur important et que pour le coup, ils ne nous ont pas trop rencontrés, seulement 37%. Alors c'est un sondage qui date de 2009, j'ose fortement espérer que ce chiffre a augmenté. Ce qui devient intéressant, c'est la diapositive suivante, c'est-à-dire que si on les questionne sur la satisfaction vis-à-vis de ces contacts avec les professionnels, on s'aperçoit que les orthophonistes, on arrive au premier plan. Alors comment comprendre cet engouement? On a peut-être des éléments de réponse dans la diapo suivante, puisque si on les questionne sur ce qui peut être difficile au quotidien, finalement, on s'aperçoit que les troubles de la mémoire ne sont évoqués qu'à hauteur de 13%. Et finalement, dans le quotidien, ce qui peut être difficile, c'est vraiment les problèmes de communication ou encore les problèmes plus relationnels. Alors, du coup, on comprend un petit peu mieux que la communication devient quelque chose d'important au quotidien. Alors, comment définir la communication? C'est quoi? Si je prends mon dictionnaire d'orthophonie, ce sont tous les moyens verbaux ou non-verbaux utilisés pour échanger avec autrui sur des idées, des connaissances, des pensées ou encore des émotions. Je suis pleinement dans mon champ de compétences. Alors néanmoins, le premier constat, c'est que finalement, le rôle des orthophonistes à l'adulte, il est quand même moins connu. Alors, je vais me présenter un petit peu. Ça fait 17 ans que je travaille en secteur neurologique adulte. Donc d'abord sur le CHU Félix Guyon et puis plus récemment au sein du territoire Est, le GHER. Et donc dans ce cadre-là, je rencontre des patients, soit des personnes qui ont fait des AVC, soit des personnes qui sont justement sur un parcours centre mémoire et qui arrivent avec des plaintes cognitives. Et donc à mon niveau, ça va être de rentrer dans l'évaluation de toutes ces habiletés communicationnelles. Je vais vous les décrire un petit peu après. Mais mon deuxième constat qui va arriver quand même assez rapidement, c'est que les troubles de la parole, du langage ou encore de la communication sont présents dans toutes les pathologies neurodégénératives. Alors on pourrait dire que finalement, l'objectif principal qu'on va chercher ensuite quand on va accompagner ces personnes à mettre en place, c'est le maintien d'une communication fonctionnelle, permettre à ces personnes de rester des individus communicants. À partir de là, rapidement, on va pointer l'importance de la vie sociale. C'est-à-dire que la communication ne peut s'exercer que dans un certain contexte donné et que finalement, la vie sociale sera le lieu où exercer ce langage, sa parole ou encore sa communication. Alors, dans les premiers petits conseils que je peux vous donner, c'est de ne pas lâcher la vie sociale. Il faut pouvoir rester connecté aux autres malgré la maladie. La vie sociale est le lieu où exercer le langage et la communication, et il n'y a pas plus stimulant pour le cerveau que la vie sociale. Et puis, il faut pouvoir maintenir toutes ces activités de loisirs qui vont permettre justement de créer de la vie sociale. Si je pousse un petit peu, je vais vous définir un petit peu ce qu'on est à même de regarder. Donc la parole, c'est tout ce qui va me permettre de sélectionner ou encore coordonner les muscles du visage pour l'articulation, la voix ou encore la déglutition. On va parler de dysarthrie. Alors ce n'est pas quelque chose qu'on va observer dans la maladie d'Alzheimer. Par contre, effectivement, vous l'avez évoqué, c'est ce qui peut être au premier plan d'autres étiologies dégénératives comme la maladie de Parkinson ou encore la maladie à Cordes-Lévy puisqu'un axe Parkinson est décrit dans cette étiologie-là. Le langage, c'est ma capacité que j'ai à comprendre les mots, les phrases, trouver les bons sons, accéder aux mots et formuler des phrases. Le langage, il peut être oral ou encore écrit. Et comme l'a précisé le docteur Charlin, on parle beaucoup de maladies d'Alzheimer et de maladies de la mémoire, mais il faut savoir qu'il y a des maladies dégénératives dont le mode d'entrée ne se fera plus avec des troubles de mémoire au premier plan, mais des troubles du langage. On va parler d'aphasie progressive primaire. Alors, l'aphasie est le trouble du langage oral, l'alexie le trouble du langage écrit. Et au jour d'aujourd'hui, les orthophonistes, on a des modèles qui nous viennent des neurosciences qui nous permettent un petit peu, quand on évalue, de se promener au sein du cerveau. On a des grandes autoroutes qui vont permettre, comme les voies ventrales, langagières, de permettre de donner du sens aux mots, ou encore les voies dorsales, phonologiques, de mettre des sons sur les mots qu'on cherche à évoquer. Un autre aspect qui est important, c'est que des fois, et on l'a évoqué dans la maladie d'Alzheimer, c'est un petit peu ce profil-là qu'on va un petit peu observer, c'est que des troubles de la mémoire, de l'attention, de l'organisation peuvent tout à fait en retour perturber le bon fonctionnement du langage. On va parler de troubles cognitivo-linguistiques. Et du coup, les personnes, elles peuvent avoir des difficultés à suivre, à porter leur attention sur les mots, ou encore à planifier leur discours, leurs idées, trouver les bons mots, à rester concentrées sur ce qu'on est en train de dire, et puis peut-être au bout d'un moment perdre le fil, voire digresser. Alors, le premier axe au niveau de la communication verbale, je vous ai dit vraiment ce qui nous importe, nous, c'est le maintien d'une communication fonctionnelle. Alors, on a des petits articles comme ça hein, dans la littérature scientifique, comme l'équipe de Morello, où ils ont fait un petit peu une revue de la littérature, toutes les études qui avaient pu être faites, et finalement de faire émerger les techniques qui pourraient être pertinentes sur mon objectif de maintien de la communication fonctionnelle. Et il y a deux grandes techniques hein, qui émergent. Je ne vous cite pas toutes les autres, mais la première technique, c'est la stimulation cognitive. Et le docteur Bovell a un petit peu indiqué, cette stimulation cognitive, elle est pertinente déjà pour augmenter votre réserve cognitive. Et sur un début de maladie d'Alzheimer, en fait, elle va permettre un petit peu comme créer une neuroprotection. On va pouvoir remobiliser encore certaines fonctions grâce à des exercices qui vont nous permettre de cibler très précisément la mémoire, l'attention, la planification ou encore l'organisation. Et une deuxième technique qui devient très pertinente, c'est ce qu'on appelle les thérapies lexico-sémantiques. Il faut vraiment comprendre qu'un mot existe que parce que nous y mettons du sens. Si je perds le sens, alors je perds le mot. Il faut donc pouvoir travailler à la fois sur le mot et le sens. Et quand je parle de sens, finalement, je suis en train d'évoquer un autre système de mémoire, qui est un système de mémoire important. C'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Ce qu'on vous a évoqué un petit peu déjà tout à l'heure, c'est que dans la temporalité des troubles de mémoire, le mode d'entrée, c'est le trouble de la mémoire épisodique. Je n'arrive plus à mettre en mémoire un nouvel épisode de vie. Et cette mémoire sémantique, elle va être amenée à se dégrader, à se détériorer, mais plus tardivement dans l'évolution de la maladie. Alors, voyez, par exemple, on a, pour illustrer les propos que je viens de dire, la stimulation cognitive, on a tout un package d'outils qui vont nous permettre justement de cibler les exercices proposés. Et pour la thérapie lexico-sémantique, si je m'appuie sur un article de Reilly, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Finalement, ce qui pourrait être pertinent, c'est de prendre une centaine de mots qu'on estime être importants pour la personne dans son quotidien. On va les regrouper en catégories. Les personnes qui vivent dans l'environnement de notre patient, tout ce qui a trait à l'hygiène, le savon, la brosse à dents, le dentifrice, tout ce qui a lieu au lieu de vie, aux activités, les actions, manger, boire, s'habiller, sortir, se promener, tout ce qui a trait à l'alimentation, aux vêtements ou encore aux pièces de la maison. Et c'est se dire que on va chercher bien évidemment à évoquer les mots, mais surtout ce qu'on va faire en parallèle, c'est renforcer cette mémoire sémantique. On va travailler sur toutes les propriétés spécifiques sémantiques qui accompagnent le mot. Par exemple, cet objet, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Si je le touche, qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je peux le perdre ? Etc. Et de bien comprendre que derrière chaque mot, il y a des propriétés spécifiques qui sont propres, qui permettent d'identifier, mais également de différencier. C'est un petit peu l'histoire du cheval et du zèbre. Si je perds que la rayure est spécifique au zèbre, finalement, le zèbre devient un cheval. Alors, il y a un autre élément qu'on vous a un petit peu déjà évoqué, c'est cette notion de plasticité cérébrale. Et ça va être un élément important qu'on va bien évidemment chercher à utiliser, à potentialiser durant nos accompagnements, et notamment à travers la notion de répétition. On va répéter les exercices de manière assez spécifique, ciblée et répétée, ce qui va permettre d'induire cette plasticité cérébrale. Qu'est-ce que ça nous dit ? C'est que finalement, grâce à la répétition, on va pouvoir agir sur la capacité du cerveau à se modifier et à se remodeler tout au long de la vie. Donc finalement, on pourrait dire une fonction, un mot, utilisez-le ou perdez-le. Alors néanmoins, à La Réunion, hein, d'un bon peu de gramouni cause rien de créole. Hein, on a une hétérogénéité linguistique et culturelle qui est importante, qui fait que quand j'arrive avec des super outils d'évaluation super bien calibrés, eh ben, des fois, ils sont complètement inadaptés. À partir de là, rapidement, on va poser la question de l'adaptation des outils qu'on utilise sur la question de l'évaluation cognitive. Alors dans ce cadre-là, on a la chance de collaborer déjà depuis plusieurs années avec le GRECIL, qui est une commission du GRECO, le groupe de réflexion sur la question des évaluations cognitives, hein, dont le professeur Dubois est membre fondateur. Hein. Et donc, on regarde un petit peu toutes ces spécificités locales qu'on a pour aller justement sur l'adaptation d'outils, notamment des outils d'évaluation du fonctionnement cognitif global ou encore de la mémoire. Et donc, on a des étudiantes réunionnaises qui sont sur des parcours actuellement en orthophonie ou en neuropsychologie, qui sont en train de terminer un petit peu la normalisation de ces outils qui seront bientôt en diffusion libre. Un autre élément, c'est la question des outils d'intervention. Bien évidemment, si je veux pouvoir rester adapté à la personne avec qui je suis en train de travailler, mes thérapies lexico-sémantiques, il faut aussi qu'elles puissent travailler sur du lexique qui fait partie de l'environnement de mon patient. Et donc actuellement, une étudiante en orthophonie, Chloé Kessori, qui est en train d'adapter la méthode. Si je sors un petit peu du langage et que je cherche à rentrer dans la communication, des travaux qu'on a pu mener vont rapidement montrer que si je veux aller vers des interactions interpersonnelles, sociales, communicationnelles réussies, finalement, ces composantes cognitives que je viens de décrire, elles ne sont pas suffisantes. Et rapidement, on va venir pointer l'importance d'autres composantes, comme les composantes émotionnelles ou encore motivationnelles. Alors, tout ce qui a trait aux émotions, hein, ça peut être la compréhension que j'ai des émotions exprimées sur le visage d'autrui ou encore sur sa voix. Et au niveau motivation, c'est comme si on avait un petit moteur dans le cerveau qui allait nous permettre d'initier et de maintenir les activités en cours. Alors du coup, au niveau motivation, on en a parlé un petit peu, hein. C'est vrai que dans la maladie, de manière assez rapide, peut venir s'installer une forme d'indifférence, de fatigue, d'apathie. Et ces problématiques motivationnelles, c'est vraiment un trouble de l'action qui peut tout à fait impacter la qualité de l'interaction sociale et communicationnelle avec un patient qui a plus de difficultés à initier l'échange avec autrui, à récupérer les mots dans sa mémoire ou encore à parler. Donc, bien évidemment, c'est de pointer l'importance de contrer un petit peu ces problématiques motivationnelles parce qu'elles sont fortement associées au risque d'isolement social. Donc, on se méfie de ça. L'éducation thérapeutique, ça peut être quelque chose de pertinent parce que souvent, vous avez des questions autour de la maladie, de la communication, des troubles cognitifs, des évaluations que vous venez de rencontrer. Et finalement, pouvoir échanger autour de ces questions-là, c'est aussi pouvoir vous amener une forme de conscience. On a vu la conscience, elle est importante pour adhérer au projet thérapeutique. Et donc, avoir conscience de vos forces, de vos faiblesses, ça peut aussi vous permettre de vous positionner comme étant un vrai partenaire de votre projet thérapeutique. D'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, comme ça a été dit, on reçoit des personnes sur des stades de plus en plus précoces de la maladie. Donc, il faut bien pouvoir aussi les accompagner. Et puis, ça amène de la motivation au projet et ça permet de faire de la guidance sur l'importance du maintien de la vie sociale. Au niveau des émotions, si je reprends une définition de David Sander, il va rapidement nous montrer que les émotions jouent un rôle important dans la société. C'est même un des socles sur lesquels repose la communication entre les personnes. En fait, on est constamment en train de percevoir et d'interpréter les émotions d'autrui. On a un vrai langage émotionnel parallèle au langage verbal. Et donc, ce langage émotionnel, c'est ce qui va nous permettre de nous adapter en retour à la situation de l'interaction. Donc, tout comme les aspects motivationnels, les émotions sont importantes au succès de la vie sociale et de la communication. Alors là, pour le coup, dans la maladie d'Alzheimer, les travaux que j'ai pu mener dans le cadre de mon doctorat m'ont permis de mettre en évidence que les émotions, finalement, elles résistent beaucoup mieux à la maladie que les fonctions cognitives. On peut même amener la notion de réserve émotionnelle au stade léger. Alors du coup, avec une étudiante en orthophonie, on a voulu voir si cette réserve émotionnelle, elle continuait un petit peu avec l'évolution de la maladie. Et effectivement, on a un maintien de cette réserve émotionnelle au stade modéré de la maladie. Ensuite, avec une autre étudiante, on a voulu voir si ces patients, quand au niveau cognitif, ça devient difficile au bout d'un moment d'avoir des prises, si on bascule sur un entraînement à la reconnaissance des émotions faciales, est-ce que ça nous offre des pistes, des perspectives pour continuer à accompagner? Et oui, on a montré chez 3 patients donc atteints de maladie d'Alzheimer, au stade léger, modéré et sévère, qu'on pouvait tout à fait les remobiliser sur cette capacité-là. Voilà, alors à un moment donné, quand la maladie avance, c'est se dire, ben, est-ce que les émotions et la communication non verbale, est-ce que ce ne serait pas finalement une clé pour pouvoir continuer à communiquer avec ces personnes malgré l'avancée des troubles neurocognitifs? Alors pourquoi cette communication non verbale, elle est importante? On pourrait dire que finalement, elle est importante dans toute relation, encore plus dans une relation d'aide. Prendre soin d'une personne, c'est aussi être attentif à ce qu'elle communique au niveau non verbal, d'autant plus quand la personne éprouve des difficultés pour comprendre ou encore s'exprimer avec le langage verbal. Il faut donc pouvoir être attentif à tous les signaux non verbaux. Et puis, si je peux vous donner des petits conseils, à nous, en tant que partenaires de communication, c'est de pointer que ces personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, elles sont réceptives au langage émotionnel. Donc, tous les partenaires de communication devraient pouvoir être attentifs à leur propre communication non verbale, faire attention à votre posture corporelle, à vos émotions faciales, à la prosodie, à la qualité de votre voix. Voilà, il faut être conscient, je pense, de l'impact du langage émotionnel sur l'autre. Et puis finalement, pour conclure, maintenir la vie sociale, le langage, l'attention, la mémoire et la communication, c'est permettre à nos patients d'être reconnus comme étant des personnes communicantes. Et on s'aperçoit que ça peut stabiliser, voire améliorer certaines fonctions cognitives. Du coup, on lisse un petit peu le déclin cognitif à venir. Du coup, on observe moins d'humeur triste, moins d'anxiété. Au final, on améliore la qualité de vie au quotidien des patients et des proches. Alors, je terminerai par une petite phrase du docteur Henry sur les dernières journées sur les dégénérescences lobaires frontotemporales. Donc, elle parlait des APP, mais je crois qu'on peut le généraliser à toutes les maladies neurodégénératives. L'évaluation et l'accompagnement orthophonique devraient être un standard et non une exception. Voilà, donc pour terminer, je vais remercier le GHER, le GRECIL, les étudiantes pour leur travail et bien évidemment les entretiens Alzheimer pour cette visibilité offerte sur la pratique et la recherche en orthophonie. Je vous remercie.
Bravo Sonia Michalon pour cette description à la fois précise, qualitative et quand même dans les temps. Vous avez été exemplaire également. Merci beaucoup, docteur Michalon.